Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Allez, c'est reparti pour une interview hebdomadaire. On a toujours plaisir à vous entendre sur les ondes de Radio Présence. On va regarder un petit peu ce qui va se passer ce week-end dans votre agenda. Vous serez ce dimanche 19 janvier à la cathédrale de Tarbes pour célébrer la messe à 11h. Et ce sera la messe des peuples. Alors c'est une messe qui a lieu tous les ans, mais on ne prend pas assez souvent le temps de s'arrêter pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette messe des peuples ?
Eh bien, c'est une initiative qui a déjà un certain nombre d'années, peut-être de décennies, qui, tous les ans, permet à toutes les communautés présentes dans le diocèse, venant de toutes sortes de pays, communautés chrétiennes, catholiques, de se retrouver pour une célébration eucharistique, une messe, qui, animée par eux et colorée par eux, si j'ose dire. Et donc, ça manifeste toujours l'universalité de l'Église, et y compris présente dans notre diocèse. Et voilà, ça nous rappelle que l'Église est catholique.
L'universalité de l'Église dont on a déjà parlé, peut-être que la messe des peuples, c'est aussi l'occasion de bien comprendre de quoi il s'agit.
D'autant que c'est un sujet difficile parce que elle est portée par l'organisation est portée par ce qu'on appelle la pastorale des migrants dans tous les diocèses, et qui est ce service du diocèse qui est attentif à ces personnes qui ont quitté leur pays et qui essayent de prendre racine dans le nôtre, et donc dans nos communautés qui ont à relever le même défi souvent que la moyenne de la population du pays concerné. Et c'est pas parce qu'on est catholique et donc par essence ouvert à l'universel qu'on l'est dans nos sensibilités, dans nos réflexes premiers, qu'ils soient d'ordre politique ou d'ordre affectif. Et donc, cette pastorale des migrants, à la fois, elle cherche à prendre soin des personnes qui arrivent chez nous et les intégrer dans la famille, qui est notre commune famille, mais aussi à sensibiliser les autres membres de la famille à cette fraternité universelle dont nous devons être témoins. Voilà. C'est un défi, parce que derrière, il y a des questions d'ordre politique, d'ordre économique, qui n'ont pas de réponse et de solution facile. Mais l'Évangile nous presse, comme disent les saints, et il est porteur d'exigences, de valeurs, de commandements qui ne souffrent pas de « oui, mais ». Non, l'Évangile, c'est l'Évangile, et donc nous devons le mettre en application, le vivre sans négocier, sans tergiverser. Alors c'est un défi qui appelle des conversions du cœur tout le temps. Et donc, cette universalité de l'Église dont on parlait la semaine dernière, elle est un défi permanent, elle est un donné de Dieu, mais elle est aussi à construire dans les cœurs et dans la réalité de nos manières d'être et de faire. Et c'est pas complètement évident.
Vous voulez dire que peut-être que notre point de vue politique sur la question de la migration fait que des migrants, de l'accueil des migrants, fait que on n'est pas toujours en adéquation avec cette vision de l'universalité de l'Église, c'est ça ? C'est que le point de vue politique grignote un peu sur ce que nous dit l'Évangile ?
Alors ça, c'est une question générale. J'employais le terme de politique au sens large, pas au sens de parti politique et de doctrine et de je sais pas quoi, programme, mais au sens large, c'est une dimension politique parce que elle touche à l'organisation de notre vie en société, de notre vie commune. De ce côté-là, c'est cela. Mais, alors, votre question est extrêmement importante aussi, parce que, de fait, je constate souvent cela. J'essaye, dans mon ministère d'évêque, de travailler à enseigner l'Évangile, à le proclamer et à nous engager dans une véritable conversion. C'est l'Évangile qui doit façonner nos regards, nos opinions, nos paroles, nos engagements, et donc convertir nos mœurs au sens large, y compris nos opinions politiques, et pas l'inverse. Or, bien souvent, le risque est de mettre l'Évangile et la religion au service de ce qui, pour nous, est premier, c'est-à-dire mon opinion ou ma perception du monde, de son histoire, des choses. J'ai des convictions politique, au sens large ou étroit du terme, et j'essaye de faire en sorte que l'Évangile corresponde à ce que je pense d'un point de vue politique. Et l'évêque, le curé, le pape sont des gens bien s'ils viennent me conforter dans ce que je crois, moi, être bien a priori. Et ça, c'est pas la conversion à laquelle nous appelle le Christ, quoi, finalement. C'est l'Évangile qui doit façonner nos mœurs et pas nos mœurs qui doivent ressembler et qui doivent puiser dans l'Évangile des justificatifs. Mon père spirituel, quand j'étais au séminaire, disait qu'à force de ne pas vivre comme on pense, on finit, et on peut dire comme on croit, on finit par croire comme on vit. À force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. À force de ne pas vivre comme on croit, c'est-à-dire accorder notre manière d'être à notre foi, eh bien on finit par croire comme on vit, c'est-à-dire accorder notre religion à ce qui pour nous est premier, c'est-à-dire une façon d'être et de vivre au sens politique du terme.
Donc c'est quoi la solution ? C'est une question de formation, de se plonger vraiment plus profondément dans la parole de Dieu ? C'est ça la solution pour sortir un petit peu de ce...
C'est une question de foi, tout simplement, c'est-à-dire de confiance à Dieu et d'entrer dans cet a priori de Marie au moment de l'Annonciation, c'est-à-dire de croire que Dieu a raison, a priori, sur ma raison à moi. Je ne comprends pas, je ne sais pas exactement ce qu'il me demande, mais parce que je crois en lui, je lui dis oui. Et je choisis de lui faire confiance et donc... de changer mon point de vue, mes projets, ce qui était programmé pour moi. Voilà, c'est le message de Marie à l'Annonciation. Croire que Dieu a raison, quand ma raison à moi cale, ne comprend pas, ne valide pas ce que la foi me dit. Et c'est une question de foi, d'abord, avant tout.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour cet éclairage. Alors, on va revenir aussi au cours de cet entretien sur la visite pastorale que vous avez menée samedi dernier, le 11 janvier. Vous étiez dans l'ensemble paroissial d'Aspin. Alors, c'est vraiment tout près de Lourdes, hein, les deux vallées de Batte-sur-Guère et de Castel-Loubon. C'était une très belle journée, fort bien organisée par l'équipe d'animation paroissiale, avec des temps d'échange vraiment très sincères, où les personnes ont pu vraiment se confier, dire leur joie, mais aussi leurs inquiétudes. Parmi ces personnes, notamment une personne qui a témoigné en disant qu'elle s'inquiétait d'un certain relativisme liturgique. D'abord, comment vous avez compris ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, le relativisme liturgique ? Et puis, est-ce que vous pouvez partager avec les auditeurs ce que vous lui avez répondu ?
J'entends le relativisme liturgique, le fait qu'on en prend et on en laisse dans les indications données par les rituels, par les livres liturgiques. C'est un peu en lien à la question précédente et à ce que je répondais. C'est-à-dire, ça me plaît, je prends, ça me plaît pas, je change. C'est ça le relativisme, c'est moi qui deviens... le repère et la norme de ce qui est bien et pas bien. Et donc, je valide et je prends, je valide pas, je laisse. Voilà. Or, les livres liturgiques, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour, et c'est ce que j'ai répondu, c'est au-delà, après, il peut y avoir une manière d'être, un état d'esprit, une nostalgie sur des façons de faire anciennes, des choses comme ça, qui font qu'on appelle relativisme simplement le fait que ça a changé par rapport à mes habitudes. Mais... en l'occurrence, ce n'était pas ce qui était dit du tout, et ce n'était pas le cas de cette personne qui disait cela. C'est le fait de ne pas faire tout à fait précisément ce qui est suggéré, c'est ce qui est suggéré, non, ce qui est demandé dans les rituels, dans ce qu'on appelle les rubriques, la manière de poser des gestes, la manière de dire une prière eucharistique, de formuler le chant du gloire à Dieu, ou telle oraison, ou telle... Bon. Parce que la liturgie, elle unifie, le rite unifie les gens, elle sert une communion. Si on arrive dans un endroit où on ne reconnaît pas les prières, les mots, les gestes qui sont posés parce qu'ils sont de la sensibilité du curé ou de l'équipe liturgique locale, et ça a un côté ésotérique qui n'est accessible qu'à ceux qui sont de là, et donc ça ferme la communion aux autres. Or, le rite, il sert la communion ecclésiale, et encore une fois à l'échelle universelle. Et donc, c'est entre autres pourquoi j'ai demandé aux responsables de la liturgie au sanctuaire à Lourdes que nos querelles tradies, je ne sais pas quoi, liturgiques franco-françaises, n'ont pas de place au sanctuaire à Lourdes et qu'il faut célébrer en veillant à ce que on prenne l'intégralité des livres liturgiques, qu'on n'invente pas des gestes et des choses qui sont pas, voilà, et qui ne parleront qu'à ceux qui les ont créés. Mais c'est pas le but de la liturgie. Le but de la liturgie, c'est d'unifier, c'est de servir la communion. Et donc, il y a dans l'Église catholique universelle qui préside à cette communion un service du Saint-Père qui justement veille à ce que les choses soient comme ça. Il y a un adage, enfin une formule qui dit bien cela, l'ex orandi, l'ex credendi. La loi de la prière est la loi de la foi. La manière de prier dit quelque chose de la foi. Et ce que j'ai dit, c'est que du coup, la liturgie, elle est missionnaire aussi. Et j'évoquais comme souvenir ce qui s'est passé à Paris au moment des Journées mondiales de la jeunesse en 1997. Au stade de Longchamp, le 14 août au soir, il y a eu la célébration de baptême confirmation de jeunes adultes qui étaient là présents. Les journalistes, un peu goguenards dans tous les jours qui précédaient, dans leur manière de couvrir l'événement des JMJ, ont été saisis par les paroles, les gestes, la sobriété, la beauté, sans explication, sans baratin, j'emploie ce mot de temps en temps, superflu, simplement, les gestes liturgiques, les paroles liturgiques posées ont été pour eux missionnaires, et leur manière de couvrir la veillée d'une part et la messe du 15 août le lendemain a été complètement retournée, simplement parce que la liturgie les a atteints dans ce qu'elle porte. Et la liturgie est missionnaire. Voilà. Mais il ne faut pas en faire trop, il faut faire ce qui est prévu, sans se mettre nous au centre. Et paradoxalement, il y a des manières de transformer les choses qui braquent l'attention et le projecteur sur nous, et non pas sur celui que la liturgie sert, c'est-à-dire la communion du peuple de Dieu et le Seigneur.
Donc tout le missel, sans en rajouter, sans en enlever.
Voilà, tout le missel, rien que le missel.
Il a été réclamé aussi, alors par la même personne, une formation à la liturgie. Alors, pour les personnes qui sont... C'est vrai, dans les paroisses, il y a des personnes qui constituent l'équipe d'animation liturgique. Vous pensez que ça, c'est important? C'est quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place, une formation à la liturgie pour les personnes des paroisses qui sont engagées?
Alors, oui. Mais une vraie formation, c'est-à-dire que la formation, ce n'est pas simplement apprendre à plier le corporal ou mettre le calice au bon endroit, ou, etc., sur l'autel ou sur la crédence. Bon. La formation, ce n'est pas simplement une formation aux gestes à poser ou des choses comme ça, mais c'est une formation à la théologie de la liturgie. Et ça, c'est une formation de fond qui vient toucher à la foi, justement. Et en effet, c'est très très important. Et du coup... Cette formation-là, elle empêche de s'énerver du premier coup, si par malheur telle parole a été oubliée ou tel geste a été posé maladroitement. C'est pas important. Bien sûr que c'est important que les choses soient faites dignement et comme il faut et comme c'est demandé, etc. etc. Mais la formation à la profondeur de la liturgie, à la théologie de la liturgie, met les choses et l'importance des choses au bon endroit. Quoi. Voilà. C'est cette formation-là qui est importante.
Et donc qui pourra peut-être voir le jour dans le diocèse au cours de l'année ou au cours de l'année suivante, l'année pastorale suivante.
Ça fait partie, en effet, du contenu de la formation qu'il faut que l'on mette en place. On est en train d'y travailler. Une formation à la théologie, à la foi, la théologie de l'Église, l'explication du contenu du credo, mais aussi à ce qu'est l'Église. Pour moi, c'est très très important de former la foi des catholiques à ce qu'est l'Église en profondeur, dans sa dimension mystique, pas dans sa dimension organisationnelle, mais ce qu'elle est comme corps du Christ, peuple de Dieu, temple de l'Esprit, et la liturgie est au service de ce qu'est l'Église et de ce pourquoi elle est faite, de sa mission. Et donc c'est évidemment des chapitres très très importants d'un programme de formation.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. Eh bien, écoutez, c'est une affaire à suivre. Je rappelle donc que ce week-end, alors on l'a dit, dimanche, vous serez à la cathédrale de Tarbes, la cathédrale Notre-Dame de la Cède, à 11h pour cette messe des peuples. Et puis samedi, vous serez à nouveau en visite pastorale. Vous serez du côté de la Barousse. Encore un nouveau décor, de nouvelles rencontres. Et voilà, très bon week-end avec les chrétiens des Hautes-Pyrénées. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel entretien.
Je me réjouis de cette visite pastorale en Barousse qui me rapproche tellement de chez moi.
À la semaine prochaine, Monseigneur.